Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Donc, Ésaïe, chapitre 59, verset 19. Écoutez bien, s'il vous plaît. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche ni de la bouche de tes enfants ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Nous allons porter notre attention sur cette partie du verset 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nous ne sommes pas seuls. Un chrétien n'est jamais seul. Alors bien sûr, on peut toujours envisager qu'il y a la communion fraternelle qui est un bien précieux, mais même s'il n'y avait pas cette grâce de Dieu et ce privilège de la communauté de foi, eh bien le Seigneur nous a fait la promesse qu'il était tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et voilà que le prophète Ésaïe est inspiré dans ce texte, et il dira « Quand l'ennemi viendra, n'est-il pas déjà venu ? Reviendra-t-il ? » Aucun souci à se faire. Hein. Mais peut-être est-il là aujourd'hui, pour certains, à travers ses butoirs, à travers ses accusations, à travers les souffrances qu'il inflige aux enfants de Dieu, les douleurs, qu'elles soient physiques, hein, qu'elles soient morales, peut-être une confusion spirituelle. Quand l'ennemi viendra, et nous pouvons avoir cette idée d'inondation, nous pouvons avoir cette idée de submersion, qui sommes-nous ? On n'est pas grand-chose. On peut également développer qu'il va envahir l'espace. Si c'est l'espace extérieur, il nous assaille. Maintenant, le grand danger, c'est quand il nous envahit de l'intérieur. Et ça, c'est une autre affaire. Il va recouvrir quand l'ennemi viendra pour t'inonder, pour te submerger, pour t'envahir, pour te recouvrir à la manière d'un fleuve. Alors, il y a des fleuves qui sont très tranquilles, mais il y a des fleuves qui sont terriblement dangereux à certaines époques, à certaines saisons, en raison de leur impétuosité. Quelquefois, ils sont infranchissables. À travers l'ampleur, quand ils se déploient ou ils se répandent dans toute la vallée, sur les plaines avoisinantes, ça peut faire des kilomètres et des kilomètres, hein. La soudaineté également, parce qu'on ne s'y attend pas. C'est quelque chose qui vous s'est dit du tout à coup, et puis bien d'autres choses. Alors quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, il y a une parole de Dieu. Et c'est ce qui suit l'Esprit de l'Éternel. C'est pas je ne sais quel autre moyen, mais l'Esprit de l'Éternel. Je m'adresse à des hommes et des femmes, à des chrétiens qui sont nés de nouveau. Mieux encore baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur n'est pas seulement avec nous, mais il est en nous par l'Esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Alors l'Esprit de l'Éternel, il nous est dit, c'est une promesse. C'est la même valeur que quand Jésus, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils, ceci, cela, etc. Mais ils imposeront les malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. Mais c'est une certitude et une assurance. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. parce que il faut bien s'imprégner, et quelquefois nous l'oublions, que notre Dieu, il est souverain et maître de la nature. Qu'elle soit de nature, c'est-à-dire dans notre humanité, la matière, ou que ce soit d'une nature étrangère qui nous est pas accessible, c'est-à-dire une nature spirituelle. Et puisqu'il est question de l'ennemi, vous savez comment il s'appelle. Vous savez d'où il vient. Vous savez où il est. Et quelquefois, nous l'oublions. Alors, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Vous avez remarqué, il viendra, mais Dieu le mettra en fuite. C'est pas du supposé. C'est pas du peut-être. Ce n'est pas conditionnel. Il nous est bien dit que là où le cœur est rempli de foi, eh bien, Dieu va agir. Et il va agir tout simplement parce qu'il en a fait la promesse. Je voudrais dire que vivre la vie chrétienne, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Qu'est-ce que nous compliquons les choses ? Personne ne répond, mais bon. Alors à ce moment-là, il nous est dit, un rédempteur viendra. Alors ça s'adresse naturellement, dirigé, Ésaïe, c'était le grand prophète de la nation d'Israël, mais ça vaut pour nous, hein. De toute façon, rien n'a changé. Hein. Un rédempteur viendra qui apportera la délivrance et le secours. On l'a chanté tellement bien ce matin. C'est vrai. Et je pense qu'il y avait une inspiration dans le choix des cantiques, et c'est une préparation, déjà, une anticipation par rapport à la parole que nous partageons maintenant, et puis moi ça me rassure. Non, parce que c'est vrai, moi mes petits matins, ils servent à quelque chose. Enfin, c'est un petit clin d'œil que je fais au passage. Délivrance, secours, et il est question d'un sauveur. Et la condition, c'est tout simplement, nous l'avons lu, d'abord, la conversion. Convertissez vos cœurs. Ne vous laissez plus maintenant emporter par le doute, par la crainte, par le tracas, par les inquiétudes dévastatrices. Convertissez-vous, bien sûr, au Seigneur, mais vous l'êtes. Mais que véritablement, eh bien, Dieu règne sur notre vie, sur nos pensées, sur notre conscience, sur tout ce qui ravage notre âme, tel que la culpabilité ou autre chose. Alors, convertissez-vous. Et puis, bien sûr, le côté spirituel, abandonnez le péché, parce que peut-être qu'il peut y avoir des causes à effet. Et nous allons en parler ce matin, des causes à effet. Parce que quelquefois, nous disons des choses et nous proclamons des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas dans la pensée de Dieu, seulement dans la pensée de l'homme. Et nous pouvons faire un mal terrible. Ouais, parce que nous ne sommes pas forcément, eh bien là, dans la conduite de l'Esprit de Dieu. La condition, donc, convertissez-vous. Ne craignez rien, je suis là. Et puis, c'est l'abandon du péché. Puis, il y a une alliance, après, vous l'avez lu, on a pris ces mots, hein, ensemble, tout à l'heure. Je donnerai une alliance. Et c'est cette alliance qui est marquée dès le premier jour où nous avons dit oui à Jésus lorsque nous nous sommes tournés vers lui. Oui, je veux que tu sois mon sauveur. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu règnes sur ma vie. Je veux que tu prennes toute la place. A-t-il vraiment toute la place? Maintenant, à chacun d'y répondre, mais on va, on travaille, on grandit, on croit, avec un petit chapeau sur le i, hein, on croit, et pour justement qu'ils prennent de plus en plus la place, parce que nous voulons être des chrétiens conséquents. Alors, il y a cette alliance qui est la présence, la promesse, pardon, de la présence du Saint-Esprit et de son assistance, et il nous donne sa parole pour nous rappeler tout cela. Écoutez bien, nous l'avons, c'est vrai, bien marqué encore, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, eh bien, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite, et je fais une alliance avec Israël, je fais une alliance avec vous, et je vous donne aussi mes paroles qui seront dans ta bouche, elles sont dans ta bouche, elles seront dans la bouche de tes enfants, etc., etc., à jamais, hein, à jamais. Et pour dire le sujet principal de notre réflexion ce matin, écoutez bien, parce que c'est ça ce qui va déterminer le reste, et c'est ça ce que j'ai à cœur de vous dire. Pour ceux qui passent des moments difficiles, et on en passe tous. Toujours après l'épreuve. Je dis bien et j'affirme. Toujours après les tribulations. Voir les persécutions. Voir tout ce qui peut survenir pour nous déstabiliser, pour nous rendre malades, pour nous faire lâcher prise, pour nous terrasser, pour nous mettre par terre, pour nous faire renier. Eh bien, toujours après l'épreuve, écoutez la suite. Vient la bénédiction et la gloire. Alors, on va le suivre, hein. Ça, c'est le fil rouge. Toujours après ce que nous vivons, parce que nous sommes des enfants de Dieu, le monde, quand il a aussi les mêmes épreuves, mais on pourrait dire que c'est presque gratuit, parce que même s'ils apprennent des grandes vérités sur le plan humain, nous, c'est autre chose. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais une chose, c'est que nous mettons notre foi en Dieu, et encore une fois de plus, vient la bénédiction et la gloire. Et pas seulement la gloire de Dieu, vous allez voir que c'est une gloire pour nous aussi. On a peut-être cherché longtemps la gloire pour se valoriser, de dire « je suis quelqu'un », etc. Mais c'est pas du tout le même caractère, hein. Vous allez voir. Parce que cette gloire-là, elle passe par le dépouillement. Elle passe par l'abnégation. Et là, après, on n'a plus envie de faire de la gloriole, hein, je peux vous le dire. Et on va le voir. Alors, nous allons aller plus loin. Je vous propose que nous lisions maintenant dans l'épître de Jacques. C'est aussi une introduction, parce que nous verrons un texte sur lequel nous allons nous appuyer davantage. Alors, Jacques, et vous allez comprendre de qui je vais parler, qui est le personnage en exemple que nous allons méditer ce matin. Jacques, chapitre 5, verset 10. C'est l'exhortation de l'apôtre qui dit ceci, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Je mettrai ma parole dans ta bouche. » Qui ont parlé au nom du Seigneur. Verset 11. « Voici, nous disions bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. » Ça vous dit quelque chose, Job? Ouais, ben on va voir. De la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. C'est un texte, c'est un verset extraordinaire. Et nous allons pouvoir en juger d'ici quelques instants. Job est pris pour modèle, parmi d'autres modèles de support de la souffrance, du vécu de l'épreuve. Il est pris donc comme modèle à la fois de douleur, mais également de patience. Et peut-être je pourrais allier les deux, de patience et de support dans la douleur. C'est pas évident, hein. Franchement, hein. Quand tout va bien, c'est facile. C'est simple, on a tous vécu des moments heureux, des moments où, ben, voilà, il n'y a pas de problème majeur. Et c'est bien de vivre comme ça, hein. On voudrait que ça dure. Mais on n'est pas toujours conscient du bonheur que nous avons lorsque nous vivons ces temps-là, hein. C'est quand ils ont disparu qu'on s'en aperçoit qu'ils sont plus là. Et là, à ce moment-là, il y a une école qui va s'ouvrir pour nous, une école divine. C'est de pouvoir continuer avec le même attachement au Seigneur, comme lorsque nous étions dans les moments, dans les jours heureux. Dans un proverbe, il est dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Pas trop difficile. Mais au jour du malheur, au jour où les vents soufflent contraire, alors à ce moment-là, réfléchis. C'est plein de bon sens tout ça, hein, bien sûr. Et la patience dans la souffrance s'appelle, dans les dons du Saint-Esprit, ou les fruits du Saint-Esprit, la longanimité. C'est un nom un petit peu barbare, hein. Hein, c'est le vocable ou le vocabulaire de l'ancien temps, 19e siècle. Etc. La longanimité, c'est le support dans des moments de difficulté, voire de grande difficulté. Longanimité. Alors nous allons nous prêter à examiner les terribles épreuves de Job et nous remarquons ceci dans le texte que nous avons lu dans Jacques. C'est sa fin. Alors tout à l'heure, on va parler, d'ici quelques instants, on va parler de ce qu'il a vécu. Brièvement, hein, c'est un tour d'horizon rapide, hein, on va faire ça en diagonale, très rapide. Mais dans ce texte de Jacques, il nous est dit, vous avez vu la fin que Dieu lui a accordée. Vous avez vu, vous avez entendu et vous avez lu. Parce que vous connaissez le livre de Job? C'est un tout petit livre, 43 chapitres. Et alors là, c'est véritablement sous perfusion. Hein. Je peux vous dire que perfusé dans la douleur. Hein. Parce que le livre de Job a été appelé le livre de l'art de bien souffrir. C'est réjouissant. Hein. Ça fait sauter de joie. Et pourtant, c'est un livre indispensable à tous les enfants de Dieu. Parce que c'est pas un livre de défaite. C'est pas un livre de tristesse. C'est pas un livre qui doit nous mettre en déprime et puis pleurer. Non, c'est un livre qui nous montre que l'on peut pleurer, mais que l'on va éclater de joie et d'allégresse. Vous avez vu la fin du livre? Et vous avez vu naturellement la fin de Job. Et vous avez vu la fin de chrétiens, quelquefois, que nous avons connus, que nous avons dans l'histoire, parmi cette, ce nombre de d'hommes qui ont, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, ont vécu des choses difficiles pour le royaume de Dieu ou l'œuvre de Dieu, et dont Dieu les a véritablement honorés d'une manière extraordinaire. Alors, la fin de Job lui a été accordée, et il nous est bien dit, vous avez vu la fin que Dieu lui a accordée, que Dieu lui a réservée. Vous savez tout ce que nous pouvons vivre dans notre passage ici-bas en tant que chrétien, je veux dire, hein, parce qu'il y a toujours la relation de foi et de communion et d'attachement à Dieu. C'est pas pour rien. Mais nous apercevons que il y a là quelque chose que quand nous vivons des choses difficiles, ça a été rappelé à travers la prophétie. Dieu n'est pas indifférent. Dieu n'est pas sourd. Il n'a pas entendu votre prière et la prière de l'Église. Dieu n'a pas mis de côté en disant, bon voilà, bah, y en a tellement qui crient. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde de cris et de douleurs. Non. C'est difficile pour nous, dans notre esprit humain tellement limité, de comprendre que Dieu est tout, partout, surtout, et qu'il entend tout, hein, et qu'il voit tout, et que aucun des petits de ceux qui appartiennent à lui, eh bien, n'est oublié. Oui, n'est oublié. Alors, Dieu a réservé à Job. Et moi, mes frères et sœurs, j'aurais vous encouragé que tout ce que vous avez traversé jusqu'ici, pour les plus anciens qui ont vécu des choses difficiles, eh bien, je voudrais vous dire que rien, pas un cheveu, pas une miette a été oublié du Seigneur. Rien. Et on pourra s'en rendre compte que lorsque nous arriverons là-bas. Alors non pas parce qu'il met ça en mémoire, il a un enregistrement, voilà. Non, non. C'est parce que finalement, c'est pas le but d'avoir souffert. C'est le but d'avoir résisté dans la souffrance et d'avoir triomphé de la souffrance. Et de notre foi, eh bien, surmonter toutes ces choses. C'est ça, la question qui est. Alors, quand on retourne, et j'y reviens, à Ésaïe, je me permets d'insister, hein. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour nous, on le sait, hein. Et on connaît son nom. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché, dit l'Éternel, voici mon alliance avec eux, mon esprit qui repose sur toi, mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, etc., etc., dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Oui, Dieu a l'éternité pour lui. Nous avons seulement la temporalité. Alors on peut pas mesurer les choses. Je voudrais faire, si vous me le permettez, un bref résumé de la vie tourmentée de Job. Sortez vos mouchoirs, s'il vous plaît. Oui. Job est un homme riche et heureux. Ça va? Ça commence bien. Et il se voit soudainement, nous dit le texte, accablé de terribles épreuves diverses. Parce qu'il n'a pas eu seulement un mal de dents. Il s'est pas cassé seulement le col du fémur. Non. De terribles épreuves et dans la diversité, dans la soudaineté. On apprend que ses biens vont lui être volés pillé, saccagé. À plusieurs reprises d'ailleurs. On apprend que ses enfants vont mourir. Combien en avait-il ? 7 garçons et 3 filles. Dites donc, hein. On apprend que sa femme l'abandonne. Elle lui dit, puisque tu crois en Dieu encore avec tout ça, moi je te conseille, mon cher mari, tu maudis Dieu et tu meurs. Mesdames, ne retenez jamais ce conseil. Et puis un jour, il est frappé d'un mal incurable. On l'appelle ulcère dans ce texte, mais bon, aujourd'hui on lui donnerait peut-être un mot plus moderne. Il nous est dit que de la tête aux pieds, Job était véritablement là, dans une souffrance terrible, de la tête aux pieds. Il se grattait, parce que c'était les moyens médicaux de l'époque, avec un tesson de bouteille. Pfiou ! Ou un pot, je ne sais pas. Ses amis viennent le voir pour le réconforter. Il ne le réconforte pas, il l'accable. Merci, hein. Et ils l'accablent, ils vont pas le dire au départ, mais ils vont le soupçonner d'avoir gravement péché et que finalement, le mal dont il souffre n'est que la punition de ses fautes. Le pauvre Job, les fâcheux consolateurs qui viennent vous dire, eh bien voilà, si tu vis cela, c'est que certainement il y a quelque chose qui va pas dans ta vie. Mais ce sont des soupçons, ce sont des suppositions et il n'y avait rien de tout ça dans la vie de Job. Et vous allez le voir, puisqu'il nous est dit qu'il était intègre et juste. Mais quand on voit les choses de l'extérieur et que ça ne nous concerne pas, et que nous, vraiment, on a pas mal, alors à ce moment-là, on peut toujours dire n'importe quoi devant la souffrance des autres. Et c'est ce qui se passe. Alors pour souffrir ainsi, selon les suppositions, la supputation de ses amis, alors il est dépouillé de tout, il perd tout, et nous le voyons à un moment donné, dans certains récits de ce livre de Job, aux portes de la mort, voyant même appeler la mort, maudit soit le jour où ma mère m'a mis au monde. Je préférerais être encore dans la fosse que de vivre ce que je vis. Alors, la vraie raison de tout cela, parce qu'il y a quand même une raison, mais nous on la connaît, mais lui il la connaissait pas, il vivait. Hein. Et vous savez, dans toutes les souffrances que vous connaissez, on les vit comme ça au jour le jour, à la minute, quand ça va mal. Mais vous n'en connaissez pas la fin encore. Et quelquefois, eh bien, on ne sait pas toujours. Mais il y a une vraie raison à tout cela. Mais il y a deux directions dans la souffrance d'aujourd'hui. Soit je vais succomber, ou soit je vais être vainqueur. Alors la vraie raison se fait jour dans le livre de Job. On l'a dit et je le répète, il est intégré et droit. Il aime Dieu. Et un défi invisible, parce que c'est ça, hein. On voit les choses matérielles, on connaît notre monde. Bon, quelquefois, on passe sur des choses que nous ne voyons pas. Mais néanmoins, c'est du visible. Mais là, il y a un défi invisible qui est fomenté par l'ennemi. Vous savez, ce fameux ennemi qui vient comme un fleuve, dont on appellera Satan, l'adversaire de Dieu et des hommes. Alors, il est fomenté par l'ennemi pour remettre en cause la fidélité de Job à Dieu, parce que c'est ça le but. Et mes frères et sœurs, quand vous passez des épreuves, votre tête est mise à prix. Moi, en tant que pasteur, elle a été mise à prix plusieurs fois et révélée par prophétie. Vous savez, on a intérêt de s'accrocher hein, quand c'est comme ça. Hein. Surtout quand on connaît un peu, on connaît pas tout. On sait pas ce que l'on va vivre, mais quelquefois, ça crépite. Hein. Ça, c'était ces mises à prix de notre tête, c'était avant qu'on rentre dans l'œuvre de Dieu. Hein. Bon, il y en a eu après, naturellement, mais bon, je me souviens de celle-ci en tous les cas. Hein. Mais nous voyons que l'épreuve surmontée fait éclater la vérité et l'authenticité de la foi de Job. C'est tout. Vous avez la foi. Dieu va la grandir. Dieu va la faire rayonner. D'abord, dans votre cercle à vous, dans l'église et dans le monde. Et dans le ciel, il y aura un nom. Et sur notre nom, et nous aurons un nom. Et là, certainement, il y aura une association avec notre nom nouveau. Victoire. Et gloire à Dieu. Job ne cédera en rien à la tentation de renier son Dieu. Il nous est dit à un moment donné, dans le chapitre 2, qu'à travers toutes ces souffrances et toutes ces choses difficiles, Job ne pécha aucunement par ses lèvres, par sa bouche. Ça, c'est Job. Éprouvé, et il a eu la dose. Job cherche des réponses à ses douleurs incessantes. Et ils cherchent, et ils n'en trouvent pas. Plus ils cherchent, moins ils trouvent. C'est terrible. Parce que ce n'est pas de cette raison-là et ce n'est pas de cette dimension-là que les réponses vont nous venir. Et c'est vrai que quand les choses basculent dans la douleur et dans la souffrance, le premier réflexe humain que nous avons, c'est d'essayer de comprendre. Seigneur, donne-moi de comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais je voudrais vous rappeler, parce que vous l'avez souvent entendu dire de ma bouche, que Dieu ne nous demande pas tant de comprendre que de croire et de lui faire confiance. Alors, il ne trouve pas, et il se dit, comme parfois nous pouvons nous le dire nous-mêmes, mais pourquoi souffrir autant? Pourquoi tant de choses? Pourquoi tant de choses dans le monde? Pourquoi tant d'innocents? Pourquoi tant de guerres? Pourtant, pourquoi tant de fous qui déclarent la guerre et qui tuent des millions et des millions de personnes? Permission de Dieu? On a parlé de l'ennemi tout à l'heure, hein? Alors, pourquoi souffrir autant? Alors, Job, et ça nous choque pas, et ça doit pas nous choquer, à un moment donné, il s'impatiente. Il s'impatiente. On le voit parfois désespéré, mais jamais vaincu. C'est Paul qui le dit, hein, aussi dans ses lettres. Il crie sa révolte à certains moments. On a droit de crier, quelquefois, certainement, on a droit de crier devant Dieu. Seigneur, j'ai mal. Je souffre, Seigneur. Je suis complètement labouré à l'intérieur de moi-même et peut-être dans ma chair. Mais jamais il ne renonce à croire à l'abandon de Dieu. Et ça, c'est peut-être des petites paroles ce matin que je vous laisse. Mais il renonce, il refuse la suggestion sournoise, quasi silencieuse, qui peut venir et qui nous ébranle pour nous faire tomber. Il ne renonce jamais à croire que Dieu l'a abandonné, qu'il l'a laissé. Non pas en raison de ses mérites, non pas parce qu'il est intègre, parce qu'il est pieux et parce qu'il est juste, mais parce que Dieu est un Dieu juste, parce que Dieu est parfait. Et il croit à la perfection de Dieu, et il croit à l'intégrité totale et complète de Dieu, mais on ne peut pas dire autre chose dans ce qui concerne le caractère divin. Alors il faudra beaucoup de temps pour Job, oui, beaucoup, beaucoup de temps, pour qu'enfin, à un moment donné, c'est ce que nous allons voir maintenant par la suite, Job saisisse que ces souffrances ont une cause et un but. Il va y avoir un quatrième consolateur qui va venir. Ce n'est pas les trois premiers qui accusent et qui font la relation punition-péché. C'est un jeune homme. Il s'appelle Élihu. Oui, il s'appelle Élihu, prophète Élihu. C'est un tout jeune homme, pas d'expérience de la vie. Il va venir, Dieu va lui dire, tu vas aller parler à Job et tu vas maintenant lui dire pourquoi il souffre. C'est un texte, lisez le livre de Job, je vous en prie. Hein? Lisez le livre de Job, c'est un livre merveilleux. Ne vous arrêtez pas sur les mots en disant, mais c'est terrible. Mais c'est vrai que ça peut être terrible. Mais regardez finalement, en filigrane, la fin que Dieu lui a réservée, c'est ce que nous allons dire. Tout simplement. À un moment donné, il va prendre conscience que ce qu'il vit, c'est peut-être la volonté permissive de Dieu, mais qui répond à un défi, une accusation qui vient d'en haut, qui vient d'ailleurs. Et il faut qu'il l'admette. Parce qu'il y a bien les choses que nous vivons, il y a bien les choses que nous comprenons cérébralement, que nous comprenons avec notre intelligence humaine. Mais c'est pas seulement ça, il y a bien les choses que nous avons acquises. Oui, on peut dire oui, Seigneur, amen, il n'y a pas de problème. Mais il faut l'admettre. Il faut dire, Seigneur, eh bien, ouais, je l'admets. Je l'accepte. Ça, c'est la chose la plus difficile. Et il va y arriver. Et il va comprendre que tout ce qu'il vit, c'est un moyen de l'amener plus près de Dieu. L'épreuve permise dans notre vie n'est pas faite pour nous éloigner de Dieu, mais pour nous rapprocher de lui. Vous remarquerez que 31 fois, Dieu est appelé dans le livre de Job le Tout-Puissant. 31 fois, c'est pas une petite affaire. Hein. Pratiquement, tous les deux chapitres et même encore. Même, oui, pratiquement à chaque chapitre, Dieu est appelé le Tout-Puissant. Et s'il est appelé le Tout-Puissant, c'était parce que il fallait que Job soit convaincu que Job ne pouvait rien, il ne savait rien, mais que Dieu était le Tout-Puissant. Et que parce qu'il est le Tout-Puissant, eh bien un homme peut mettre dignement sa foi sans être déçu ni trompé. Dieu ne trompe jamais personne. Le Tout-Puissant. Et le découvrir en tant que maître et souverain de toute vie, dominant sur et au-dessus du mal et des peines des hommes. Permettez-moi de vous laisser brièvement un petit conseil, toujours dans le livre de Job, quand il est dit ceci, et c'est peut-être quelque chose qui peut modérer nos tristesses et nos peines et nous empêcher de faire du mal. C'est ce qui est dit, « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. » Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. « Seigneur, tu n'aurais pas pu trouver un autre moyen pour me parler ?» Ouais, je ne pourrais pas vous donner la réponse, parce que je ne la sais pas. Mais une chose que je sais, c'est qu'au moment de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme a ouvert la boîte de Pandore. Il a ouvert finalement un renversement de situation où le mal et le bien coexistent, et le mal est dominant à cause, finalement, du cœur des hommes. C'est par la souffrance qu'il l'avertit. Encore un peu plus loin, et ça c'est peut-être le piège qu'il faut se garder, mes frères et sœurs, parce que il est extrêmement dangereux ce piège, parce qu'il peut se retourner contre nous. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y prédispose. Et c'est vrai que tous on a eu des agacements à un moment donné avec un mal de dents ou une migraine en disant « Laisse-moi tranquille, je suis pas bien !» Ça vous fait sourire? Ah, tiens, mais on se ressemble. C'est pas vrai? Ah, tu me casses les pieds avec tes histoires. Tu vois bien que je suis pas bien, je suis malade. Bon, alors ça, c'est pas grave. Pas pour votre maladie, mais ce genre de choses, c'est pas bien grave. Mais attendez, ça va beaucoup plus loin. Parce que garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y prédispose. Attention, il y a là une pente glissante. Ça peut être préjudiciable. Enfin, Job apprend que dès qu'il se livre totalement entre les mains de Dieu, qu'il s'humilie, qu'il renonce à lutter seul, qu'il va, si vous voulez ce terme, lâcher prise, alors Dieu le comble, au-delà de ce que Job ou nous-mêmes nous pouvons imaginer, sa vie va découvrir une nouvelle dimension, une nouvelle famille. Dieu va doubler sa prospérité matérielle. Et fini la misère, sa foi en Dieu a triomphé et il n'a pas renié. Il n'a pas renié. Et j'en arrive justement à ce commentaire qui est le suivant, parce que je pense que il est évident. Ouvrez donc votre Bible au chapitre 42 du livre de Job. Et là, on va voir comment ça s'est passé. On va voir ce que Dieu a fait, oui, fini ses atroces souffrances, ce que nous avons dit tout à l'heure. Sa foi en Dieu a été victorieuse et il n'a pas cédé. Et vous allez voir la récompense. Et vous allez voir ce qui vous attend, ce qui nous attend chacun lorsque nous restons fermes dans notre foi. Je le lis. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout. » Que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Alors Job répond, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant j'ai l'expérience, maintenant je sais ce que veut dire le sens, la signification de mes souffrances, mon œil t'a vu, je l'ai vécu dans ma chair, et c'est ce qui nous fait avancer spirituellement. Mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne, dit Job, et je me repens sur la poussière et la cendre. On continue. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Téman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Vous savez, les amis fâcheux qui ont vraiment dénaturé les choses en disant si tu es si malade, c'est que tu as péché. C'est facile. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant cette taureau et cette bélier, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui que je vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Alors, Eliphaz de Téman, Bildad de Shua, Sophar de Naama, des prénoms, vous pouvez retenir si vous avez des petits garçons plus tard, vous les appelez comme ça. Allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, comme Job, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Regardons un peu. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un késita, c'est un morceau d'or et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières années. Il posséda, si ça vous intéresse, 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, faut avoir de la place, 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Gémina, et à la seconde celui de Kessia, et à la troisième celui de Keren Akput. Il n'avait pas de tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda un héritage parmi leurs frères. Job vécut, après cela, 140 ans, catastrophe pour la caisse de retraite, et il vit ses fils et les fils de ses filles jusqu'à la 4e génération, et Job mourut, et il est mort à un moment donné, il mourut âgé et rassasié de jours. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal quand même. Vous vous rendez compte? Si vous avez rêvé d'avoir des ânesses, des ânes et tout ça. Une vie. Sur le plan matériel seulement. Mais il était recueilli dans le sein d'Abraham, si je peux me permettre, un hébraïsme, finalement dans la gloire de Dieu. Vous savez qu'un jour on va voir Job. Et il viendra accueillir tous ceux qui ont souffert. Tous ceux qui ont connu 1 000 morts. Tous ceux qui ont été martyrs. Tous ceux qui ont connu dans la vie, petit ou grand, ça n'a pas d'importance. Mais il dira, mais le Seigneur est compatissant et rempli de miséricorde. On comprendra de l'autre côté. Hein. Alors, c'est tout simplement l'évocation et la conclusion de la délivrance de Job. Parce que c'est intéressant, d'abord il va y avoir un repentir pour lui. Et il va y avoir un aveu qui ne connaît rien, qui ne sait rien, et que finalement, eh bien là, il nous a dit, hein, je me condamne, je me repens dans la cendre. Qu'est-ce que l'on connaît de la vie? Qu'est-ce que l'on connaît des épreuves? Nos épreuves! Alors, mes frères, soyez attentifs, qu'est-ce qu'on connaît des épreuves des autres, hein? Quelquefois, pour leur dire, eh bien voilà, si tu as péché, c'est parce qu'à cause de ça et ceci. Ne faites jamais ça, mes frères et sœurs, parce qu'il y aura certainement des comptes à rendre de l'autre côté. Ou Dieu lui dira, mais tu t'es complètement gouré, hein. Excusez-moi l'expression, mais... Prions pour les autres, mais ne les jugeons pas. Alors, moi j'aime bien cette parole parce que c'est une des plus connues des livres de Job. Quand il est dit, mais j'ai parlé des choses sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne comprends pas. Alors, maintenant Seigneur, mon œil, mon oreille avait entendu parler de toi. Depuis qu'on est sommes convertis, on a souvent entendu parler du Seigneur. Entendre parler, c'est vrai, c'est pas suffisant. Mais maintenant mon œil t'a vu, mon cœur t'a touché. Mon cœur s'est ouvert, et je sais. On n'a rien à dire de plus. Vous connaissez cette fameuse chanson de Jean Gabin, hein? Je sais, je sais, je sais. Et quand il arrive dans la vieillesse, il dit, ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Après, il va y avoir, finalement, Job va devoir faire un exercice particulier, c'est parce que tous les gens qui lui ont fait du mal, ils vont devoir venir voir Job, et Job va devoir prier pour eux. C'est bien, hein? Alors c'est ce qui va se faire, et il a été rétabli dans son premier état, quand il eut prié pour ses amis. Priez, même pour ceux qui vous ont fait du mal. Priez pour vos ennemis, parce qu'autrement vous passerez à côté d'eux. Non, non, si vous retenez quelque chose, vous n'irez pas dans le royaume des cieux. C'est clair, Jésus le dit, hein. C'est clair, net. C'est pas seulement pour nos amis, il a prié pour ses amis, mais priez pour ses ennemis aussi, hein. Et après qu'il ait prié, eh bien, lui a accordé le double de ce qu'il avait possédé. Et on a vu un petit peu la somme de bénédictions. Elles sont matérielles. Mais je crois que plus que matérielles, parce que il faut bien dire, et je le disais il y a 15 jours dans le message du culte, que l'Ancien Testament toutes les images sont matérialisées. Dans le Nouveau Testament, elles sont spiritualisées. C'est pas pareil. Et nous ne sommes plus dans le pays de Canaan. Nous sommes maintenant, au fond de notre heure, nous avons le royaume des cieux. Ouais. Royaume de Dieu, plutôt. Alors, on voit un petit peu. Il a eu des garçons. Il a eu des belles filles. Tout le monde frappait, là, à jouer de la guitare sous la fenêtre des filles de Job, hein. Vous savez, toutes sortes de choses. Et puis, il n'y avait pas d'aussi belles filles, de femmes dans les filles de Job, hein. Et puis, le père leur accorda une part d'héritage avec leur femme, ce qui ne se faisait pas toujours, hein. Et il a vécu quand même 140 ans, hein. Imaginez-vous ce que ça comporte. Moi, ça me donne une idée. Spontané. Je vous en parle. Vous voulez ou vous voulez pas, mais peut-être que je pourrais prolonger mon séjour parmi vous jusqu'à 130 ans. Qui s'est gagné amen. Et il voit que c'est pas lui qui, c'est moi qui travaille. Vous rendez compte? Me supporter encore? Combien? Oh, bah, 70, oh bah encore 50 ans? Oh, dis donc. Je vous passe là-dessus parce que je pense que Myriam ne serait pas d'accord. Alors, il le confesse qu'il ne peut rien, qu'il ne sait rien sans Dieu. Il donne sa vie. Il livre sa vie. Et Dieu lui rend la vie plus belle qu'elle n'a jamais été. À cause de sa fidélité, tout simplement, plus forte après la tempête. Ce chapitre marque à l'évidence ce qu'est la repentance d'une, la confession de Dieu et de savoir pardonner de trois et être réhabilité et revivre. Revivre. Le bonheur sera jamais sur la terre, mes frères et sœurs. Il sera dans le ciel, il nous est promis bienheureux. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu veut déjà nous bénir ici-bas. Pour que nous puissions être véritablement en capacité de lui apporter des actions de grâce, des louanges et l'adoration pour le bien qu'il nous fait tous les jours. Même à travers les moments difficiles. Je finis à travers un dernier passage qui m'a beaucoup touché au travers de mon ministère, de ma vie personnelle, hein, je dirais. Il est dit, écoutez bien, « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, d'accord ?» C'est un texte biblique. « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. » Mon frère et ma sœur, la cause, ta cause, tes souffrances sont devant Dieu. C'est dit, ta cause est devant lui. Et qu'est-ce qu'il est dit après? Il y a deux mots. « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, alors attends-le. » Seigneur, fais vite. Ça brûle. C'est chaud. Attends-le. Les uns et les autres qui souffraient, qui êtes sur le grill, eh bien, le Seigneur vous dit, attends, c'est moi qui vais faire. C'est moi qui délivre. C'est moi qui veux te restaurer. Et je te donnerai à la mesure de ce que tu as entendu, de ce que tu sais de Job. Je donnerai. Le Rédempteur viendra. Quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite, parce que je suis là. N'oublions jamais, les uns et les autres, les jours d'après, pas les jours d'avant, pas les jours pendant, mais les jours d'après qui viennent. Parce que ce sont des jours bénis qui nous attendent, qui vous attendent. Ce sont des jours qui vont être restaurés, qui vont restaurer peut-être un état où vous êtes ruiné, physiquement ou moralement. Et ces jours d'après nous font espérer dans l'épreuve et nous donnent la force de les vivre. Oui, les forces de les vivre. C'est un livre extraordinaire, Job. Quand il est dit tout simplement et au chapitre 33, cette belle parole, verset 24, écoutez bien. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, rédempteur. Et sa chair est plus, a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais, Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait deux fois, trois fois avec l'homme pour amener son âme de la fosse et pour l'éclairer à la lumière des vivants. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu nous donne sa grâce. Et je voudrais vous inviter, peut-être pour ceux qui sont en souffrance, en grande souffrance, à vous lever maintenant. Je voudrais vous donner la possibilité, finalement, que nous puissions prier tous ensemble. C'est dans le secret de vos vies et de vos cœurs. On ne rentre pas dans les détails, mais de vous lever à votre place. Et nous allons prier. Je vais prier pour vous, pour que Dieu vous donne cette force et cette espérance, cet espoir que, eh bien, Dieu est celui qui peut tout et qui a les meilleures choses pour vous. Ce n'est pas le jour maintenant qui est important, c'est le jour d'après où la bénédiction va revenir sur votre vie, la guérison va revenir, ou toutes sortes d'autres choses. Alors levez-vous, frères et sœurs, et nous allons prier tous ensemble, et on va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, je veux te rendre grâce et je te remercie parce que nous croyons que tu nous dis que l'Esprit de l'Éternel, c'est lui qui inspire, c'est lui qui parle à nos cœurs. Nous voulons ce matin nous rendre sensibles, en effet, Père Éternel, à ta parole. La parole de Dieu, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de petites et de grandes paroles. Il n'y a pas de petites et de grandes inspirations. Il y a la parole de Dieu. Et elle agit, en effet, dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, je te prie pour mes chers frères et sœurs. Seigneur, je le fais, Seigneur, encore avec ce serment de cœur. Parce que nous croyons, Père éternel, que les compassions de notre Dieu ne sont pas à leur terme. Seigneur, en effet, alors que nous avons les yeux fermés dans la concentration, Seigneur, de la prière, je te demande de passer maintenant, eh bien, dans chaque rang, auprès de chacun et de chacune, et de faire ton œuvre. Oui, Seigneur, tu nous donnes de l'espérance. Tu nous rends la vie, Seigneur. Tu nous donnes, Père éternel, de croire que Dieu peut tout, qu'il connaît tout, qu'il sait tout, qu'il est souverain, qu'il est maître, en effet, de toutes les circonstances même. Ces circonstances qui, eh bien là, parfois, menacent de nous terrasser, de nous amener à abandonner, de nous amener à renier le nom de celui qui nous a appelés. Seigneur, passe dans les rangs maintenant. Fais du bien que chacun, Seigneur, avec une simple prière, oui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te laisse faire. Je lâche prise. Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs. Tu leur fais du bien, Seigneur, au nom de Jésus. Alors nous souvenons que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite et nous proclamons la victoire. Nous proclamons que Jésus est vainqueur, que Jésus est triomphant et nous triomphons avec lui. Et nous te bénissons et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Ouais, Seigneur, passe dans les rangs maintenant, fais du bien. Réjouis, Seigneur, et qu'il y ait véritablement une prise de victoire ce matin. Au nom de Jésus et pour la gloire de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Amen, amen, amen. Merci Jésus.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.